marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Et c'est donc un procès historique qui vient de s'ouvrir en France il y a quelques instants, celui des attentats de Paris et de Saint-Denis le 13 novembre 2015. Il s'agit de la plus grande audience criminelle jamais organisée dans le pays. On est en direct du palais de justice.
C'est donc un procès d'une ampleur tout à fait inédite qui s'est ouvert il y a quelques instants devant la cour d'assises spéciale de Paris. Cela va durer 9 mois, 20
novembre personnes. 2015, il y en a plus de 2600. Alors sur ces 2600, il y en a à peu près 300 qui sont venus témoigner ces 5 dernières semaines à la barre, qui sont littéralement venus déposer devant la justice. Leur détresse, leur douleur, leur souffrance.
Ils sont journalistes, mais aussi historiens, chercheurs, cinéastes, metteuses en scène, comédiennes, artistes et rescapés. Mes invités suivent et rendent compte, chacun à leur façon, des attentats du 13 novembre à travers le procès qui s'est ouvert à Paris le 8 septembre 2021. Papier radio, chroniques judiciaires, films, documentaires, pièces de théâtre ou même spectacles de cirque. Par quelle porte Laura Martel, Thibaut Guichard, Christian Delage, Pauline Susini, Noémie Develay-Résiguier et Alice Barrault entrent-ils dans la grande fabrique de cette histoire? Et comment chacun d'entre eux, avec ses connaissances, avec sa sensibilité, a-t-il choisi de le raconter? Trois mois après le début du procès des attentats du 13 novembre, j'avais à cœur de donner la parole dans la marche du monde à des femmes et à des hommes que j'admire et avec qui je travaille depuis plusieurs années sur les paroles des victimes des attentats. Des femmes et des hommes qui se retrouvent dans l'esprit du projet de recherche initié par Christian Delage au sein de l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, et intitulé « Des vies plus jamais ordinaires ». 20 témoignages filmés de victimes, de professionnels de la sécurité, de la santé ou encore des voisins des différents attentats revendiqués par l'organisation terroriste État islamique. Il s'agit des attentats les plus meurtriers jamais commis en France. Ces attentats se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Ils étaient coordonnés, ils étaient préparés de longue date par plusieurs équipes terroristes. 131 personnes ont perdu la vie et plus de 400 ont été blessées. Bonjour Christian Delage.
Bonjour Valérie Nivelon.
Vous avez suivi avec votre équipe de chercheurs ces premiers mois d'un procès extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est globalement joué au fond dans cette première phase au Palais de Justice à Paris?
Je crois qu'après l'exposé des faits et la mise en place de tous les protagonistes, ce sont essentiellement les paroles des témoins, partie civile, dont le chiffre a été rappelé dans l'introduction de l'émission, à savoir plus de 2500 personnes, mais dans cette première phase d'octobre-novembre, plus de 300 personnes qui sont venues à la barre, à la fois pour témoigner de ceux qui ne sont plus parmi nous et en même temps pour exprimer leurs propres témoignages sur leurs blessures, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Et je crois que ça n'est jamais arrivé en fait en France d'avoir un temps aussi long et sans qu'il soit restreint d'une manière ou d'une autre. Les gens ont pu parler librement en improvisant leur témoignage à la barre ou en le lisant, comme pour Aurélie Sylvestre. Donc il y a toutes sortes de configurations. Et je crois que ce qui a été le plus frappant, c'est de voir la détresse des blessés.
C'est en effet ce que vous avez principalement couvert, Laura Martel, en tant que journaliste de la rédaction de RFI, accréditée pour rendre compte du procès au quotidien sur nos antennes. Laura, très concrètement, qu'est-ce que ça signifie de couvrir chaque jour ce procès des attentats du 13 novembre, très concrètement, dans votre vie?
Bah déjà, évidemment, c'est beaucoup de temps. On l'a rappelé, hein, la durée du procès, c'est 9 mois. Évidemment, c'est très prenant, des audiences dans lesquelles on s'engouffre au quotidien. Ça demande d'être à plusieurs, évidemment, pour couvrir ce procès, de par sa durée. Parce que aussi, face à cet objet, on l'a rappelé, inédit, plusieurs têtes valent toujours mieux qu'une. Et c'est vrai que c'est moi qui suis le plus au quotidien ce procès, mais je suis épaulée notamment par Marine de la Moissonnière. Il y a aussi pour RFI les collègues des langues qui viennent couvrir ce procès. Et c'est bien d'être plus plusieurs, parce que quand on s'engouffre comme ça dans une procédure aussi longue, on peut parfois perdre un peu de vue le point de vue de l'auditeur, finalement, qui lui n'assiste pas à toute l'audience, qui lui n'a pas lu forcément l'enquête, tout ce qui est des faits. Et c'est important pour moi, qui pourrais avoir peut-être des fois tendance à me perdre ou à me dire « bon, ça, c'est pas la peine de le dire, on le savait déjà ». Avoir plusieurs têtes, ça permet toujours de se reposer la question et se dire « nous, en tant que journalistes, forcément, on est saisis par cette matière-là, mais comment la rendre au mieux, surtout pour l'auditeur, qui lui n'a peut-être pas les connaissances sur l'enquête, qui lui n'a peut-être pas la salle en tête ». Ce qui est un peu difficile, c'est à la fois de rendre le contenu des débats eux-mêmes, mais aussi les coulisses un peu de ce procès, ou même tout ce qui se passe dans son déroulement, parce qu'il y a deux choses en fait qu'il faut tenter de montrer à l'auditeur. C'est à la fois le contenu des débats lui-même, mais aussi cet objet procès, ce qui se passe dans la salle.
Thibaut Guichard, vous êtes docteur en histoire à l'IHTP, à l'Institut du temps présent, vous êtes consultant pour RFI, et votre couverture à vous, elle est hebdomadaire, on vous écoute et on vous lit chaque lundi sur RFI, sur RFI.fr. Alors tout comme Laura, vous avez assisté à chaque audience, au palais de justice, sur l'île de la Cité à Paris. Est-ce que vous pouvez évoquer avec moi, au fond, les différentes catégories de personnes qui sont présentes chaque jour? Parce qu'on peut peut-être commencer par le box des accusés, qui est au fond de la salle à gauche. Et puis tout au fond, dans la salle principale de l'audience, on a évidemment le président du tribunal, le juge et ses assesseurs, ce qu'on appelle la cour. Maintenant, la cour, et la cour entre et le procès commence. Et puis en contrebas du juge et de ses assesseurs, on a d'un côté, du côté des accusés, les avocats des accusés. Et puis en face, sur la droite, quand on regarde cette salle avec le juge au fond, on a les avocats des parties civiles. Ça fait beaucoup de personnalités à suivre aussi, finalement, Thibaut Guichard.
Oui, alors là, effectivement, vous venez de reconstituer la scène judiciaire, en fait, et c'est effectivement très important d'avoir en tête qu'un procès, c'est d'abord effectivement un événement. Le jugement est d'abord un événement, c'est-à-dire le fait de juger pour tous ces acteurs. C'est d'abord participer ensemble, cette communauté finalement qui se constitue autour du procès et donc de participer ensemble à cet événement du jugement. Et ça a lieu quelque part. Le lieu a été choisi pour sa dimension solennelle. C'est important de le noter parce que contrairement au procès des attentats de janvier, ce procès se tient donc sur l'île de la Cité. Et donc, rendre compte, effectivement, du lieu, du procès, de la scénographie, de l'ensemble des protagonistes, et notamment aussi, par exemple, les avocats généraux, mais également le public qui assiste aux audiences, les témoins journalistes, les témoins dessinateurs d'audience, tout ça, effectivement, c'est important d'en rendre compte à l'auditeur. Et ce que j'essaye de faire, c'est aussi de faire comprendre ce rituel, de bien faire entendre qu'un procès, ça obéit à certaines règles. Ici, il y a un double défi, finalement, que j'essaye aussi de rendre compte à la fois de chaque semaine. C'est un enjeu de compréhension, et je dirais un défi heuristique, vraiment de comprendre l'événement. Et un autre défi sur lequel on aura le temps de revenir, je pense, un enjeu mémoriel, évidemment. Mais sur le défi heuristique, je crois qu'il faut faire entendre ça à l'auditeur, c'est qu'ici, on juge un cas extrême, un événement extrême, mais on le fait avec un langage et une procédure singulière qui est celle du droit, et qui est différente de celle de l'historien, par exemple. Mais c'est ça qui est tout à fait intéressant. Donc effectivement, revenir sur le lieu et rappeler que la justice est d'abord... le premier geste de la justice, comme le dit Antoine Garapon, c'est d'abord un geste architectural et symbolique. C'est aussi important pour l'auditeur.
Et en tout cas, c'est important pour nous en France, dans notre démocratie. Laura, cette ambiance de la salle, vous n'avez pas forcément le temps d'y faire référence dans vos papiers. Vous êtes focalisée sur ce qui se dit, notamment à la barre, et vous avez énormément travaillé ces premiers moi sur la parole des témoins sous la forme de papier d'une minute 15. On écoute tout de suite celui du 20e jour du procès.
Gaëlle a des traits fins, des yeux magnifiques, mais le bas de son visage porte les stigmates de l'attaque. Première rafale sur la fosse. À terre, en voulant écarter une chaussure de son visage, elle se rend compte qu'un bout de sa joue pend le long de son cou. J'ai dû retirer les dents que j'avalais parce que ça me faisait tousser et j'avais peur d'attirer l'attention des terroristes. Sur moi, il y avait des fragments de corps qui n'étaient pas à moi, mais aussi un morceau de mon bras, raconte-t-elle. À ses côtés, Mathieu ne fait pas le mort pour survivre, comme elle espère un temps, il n'est plus là. Après des heures à se sentir partir, à halluciner, elle est finalement évacuée. « Vous êtes une gueule cassée », lui dit son chirurgien. « J'ai réalisé que j'étais une victime de guerre », explique Gaëlle. « Pourtant, j'étais à un concert, pas sur le front, mais c'est grâce à des soldats de la Première Guerre mondiale que les chirurgiens ont su me redonner une figure humaine. » Pour ce faire, son péroné va devenir sa mâchoire, un os du bassin, son bras. Ses parents doivent lui donner naissance une seconde fois, dit-elle. Elle repart de zéro, doit réapprendre à manger, marcher, écrire. « Aujourd'hui, je sors la tête de l'eau, mais je suis fatiguée. J'ai fêté mes 40 ans cette semaine, j'ai eu ma 40e opération fin août. C'est sans fin. » Mais les cicatrices visibles ne sont pas forcément les pires, souffle Gaëlle, qui termine en évoquant son fils. « Même si elle se sent comme un patchwork, je ne veux pas me plaindre, je suis debout, dit-elle. J'avance comme je peux, je souhaite juste qu'il soit fier de sa maman toute cassée. »
La voix de Laura Martel dans La Marche du Monde, ou comment rendre compte au quotidien de l'actualité du procès dans les journaux de RFI. Alors, parlons de l'histoire de cette femme, Gaëlle, qui a longuement témoigné au procès, hein, devant les accusés, devant la salle d'audience. Vous l'avez vue, vous l'avez entendue pendant tout le long de sa déposition. Pourquoi vous avez choisi de raconter son histoire et comment vous avez fait ce choix? Est-ce que vous avez fait confiance, par exemple, à votre émotion?
On savait de base qu'on allait devoir faire des choix parce que effectivement une quinzaine de témoignages par jour, on ne peut pas rendre compte de tous les témoignages. Pour moi, il y avait plusieurs critères de choix. D'abord, de manière globale, il ne fallait pas réduire ce procès au procès du Bataclan. Beaucoup de victimes du Stade de France ou des terrasses l'ont d'ailleurs mentionné à la barre. Parfois, elles ont eu le sentiment d'être mis en retrait, d'être un peu des victimes oubliées. Donc déjà, il y a le choix d'essayer de faire entendre toutes les paroles de toutes les scènes de crime. Et après, bon, c'est un petit côté artificiel peut-être qui donne une impression de catégorisation, mais l'idée, c'est quand même de montrer un échantillon de l'ampleur des personnes qui ont été touchées, c'est-à-dire parler à la fois des victimes physiques, des victimes touchées psychologiquement, évidemment des proches. Donc ça, c'était important déjà de donner un échantillon, même si ça peut paraître malheureusement un peu artificiel parfois, mais c'était important de laisser entendre toutes les paroles. Et j'ai choisi là de mettre en avant ce papier parce que d'abord, évidemment, les débats devant la cour d'assises sont oraux et on peut faire notre travail de journaliste le plus honnêtement possible. Il faut le reconnaître, on n'aura jamais la capacité de traduire la force et la puissance des témoignages qui ont été entendus à la barre. Mais j'ai choisi celui-là parce qu'on s'est posé la question à un moment donné de comment retranscrire ces témoignages. Le témoignage de Gaëlle était particulièrement fort, mais aussi particulièrement cru. Je pense qu'on l'entend ici, je reproduis certains de ses propos, et pouvait se poser la question de se dire, est-ce qu'on laisse entendre une parole aussi crue à l'antenne ? Et pour moi, c'était une évidence, en fait. On a eu un débat avec des présentateurs ici à la radio, et la question se pose. Mais pour moi, c'était crucial parce que, de un, je pense que ce n'est pas à nous d'édulcorer ce qui a été dit à la barre. Et ça montre justement la force qu'ont eu ces témoignages. C'est-à-dire que avant le procès, par exemple, on travaille sur l'enquête, on en a une petite perception, mais le procès-verbal, qui a beau décrire de manière très réelle ce qui s'est passé ce soir-là, ne peut pas rendre la force de ce qui s'est joué dans ces scènes de crime et de l'horreur qu'ont vécu les victimes. Et donc faire entendre sans mettre de filtre ce qui est dit à la barre, pour moi, était crucial. Ce qui était aussi intéressant dans ce témoignage-là, c'est qu'il y a eu un moment, au sein même des parties civiles, un débat sur les images. Qu'est-ce que la cour devait montrer aussi au cours du procès? Est-ce qu'on montrait les scènes de crime dans toute leur horreur sanglante, ou est-ce que, comme on l'a eu par exemple pour le Bataclan, on nous a montré une image du Bataclan refait avec des petits points bleus qui manifestaient la présence des victimes, mais on n'a pas eu d'image crue des scènes de crime. Et là, il y a eu un débat entre les victimes. Certaines disaient oui, il ne faut pas le montrer parce que les accusés pourraient s'en repaître d'une certaine façon, tandis que d'autres disaient au contraire, la salle d'audience, c'est là, c'est maintenant pour les victimes, pour les accusés, pour la cour et pour la société qu'il faut montrer les conséquences de ces attentats dans toute leur horreur, parce que c'est là que se joue la réalité, c'est là qu'il faut l'exposer pour aller le plus proche possible de la vérité judiciaire.
Et là, on a bien entendu en quoi consiste votre exercice d'écriture extrêmement ciselé entre votre propre récit et puis les citations de Gaëlle, d'une précision et d'une vérité absolue, hein, parce que c'est exactement les mots qu'elle a prononcés. Avant de vous redonner la parole, Laura, je souhaite également que l'on écoute l'une des chroniques audio de Thibaut Guichard, sachant que toutes ces chroniques se lisent sur le site de RFI.fr. Celle-ci s'intitule « Le devoir de mémoire », s'adresse à tout le monde. On est à la 6e semaine du procès.
Il est 11h30 en temps universel, 13h30 à Paris, vous êtes bien sûr RFI.
Jean-Baptiste Marot.
Actualité en France, c'est aussi le procès des attentats du 13 novembre qui se poursuit devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il entre dans sa 7e semaine aujourd'hui. Et comme chaque lundi avant la reprise des audiences, on va faire le point sur ce qu'il s'y est passé la semaine dernière avec l'historien Thibaut Guichard. Bonjour.
Bonjour.
Je le rappelle, Thibaut Guichard, vous êtes doctorant à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et cette semaine, vous souhaitez en particulier revenir sur une notion plusieurs fois invoquée ces derniers jours par les parties civiles qui viennent déposer à la barre. Il s'agit du devoir de mémoire. Pourquoi est-ce que cela a retenu votre attention, Thibaut Guichard ?
Le devoir de mémoire, en fait, implique un rapport obligé au passé. C'est-à-dire qu'il y a un impératif moral à se remémorer un événement parce qu'il a été, par exemple, particulièrement traumatique, hein, comme un attentat. La notion, elle est ancienne, elle apparaît, elle s'impose en France progressivement à partir des années 70 et 80. Et comme l'a montré l'historien Sébastien Ledoux, l'apparition du néologisme est en fait contemporaine d'un usage nouveau du concept de mémoire, de plus en plus associé à la figure de la victime qui incarnerait une exigence de réparation.
Dans le contexte du procès des attentats du 13 novembre, Thibaut Guichard, à qui s'adresse cette injonction à se souvenir et à quoi renvoie-t-elle ?
Alors c'est d'abord pour eux-mêmes que les victimes du 13 novembre invoquent ce devoir. Ils viennent témoigner pour donner un sens nouveau à leur traumatisme, pour ne plus subir l'événement, mais grâce au récit, le mettre à distance. Certains aussi, en tant que témoins directs des attentats, estiment de leur devoir et de leur responsabilité de venir à la barre en mémoire de tous les morts, donc de tous ceux qui ne pourront plus jamais s'exprimer. Il s'agirait ici d'éviter que à l'injustice du crime, finalement, succède une injustice de l'oubli. Et puis, enfin, certaines parties civiles viennent aussi nous parler de leur expérience pour que leurs paroles soient entendues évidemment par le reste de la société, afin de faire en sorte, comme l'a expliqué une partie civile au 22e jour d'audience, je cite, que plus jamais quelqu'un puisse vivre ce qu'ils ont vécu le 13 novembre. Alors là, le devoir de mémoire s'adresse en fait à tout le monde, pas seulement aux victimes, mais à tous les Françaises et tous les Français. Ces victimes, elles viennent à la barre finalement dans un effort de transmission.
Thibaut Guichard, il y a deux semaines, un avocat de la Défense, Maître Méchin, s'est inquiété du fait que le procès de ces attentats du 13 novembre puisse se transformer en cérémonie d'hommage ou de commémoration, je le cite. À la lumière de ce qu'on vient de dire, comment analysez-vous cette intervention ?
Il s'agit ici de dénoncer une sorte d'abus de mémoire au sens que l'a défini Paul Ricoeur, c'est-à-dire à la fois un excès de mémoire, mais aussi un mésusage. Pour cet avocat, finalement, il ne serait pas choquant ni déplacé de rappeler les noms des victimes des attentats du 13 novembre dans le cadre du procès, mais ce rappel devrait se faire avec une certaine justesse, avec une certaine mesure, sinon on risque d'être contraire finalement à l'idée de justice, au principe d'équité dans le traitement de tous les acteurs de ce procès. Alors je voudrais aussi remarquer qu'en plus d'invoquer un devoir de mémoire, certaines parties civiles ont exprimé le vœu que la société oublie, je cite, le nom et le visage des accusés. Alors il n'est pas du ressort de la Cour, évidemment, de définir une mémoire juste du 13 novembre. Et donc, on peut s'interroger sur cette demande d'oubli. Finalement, parce que leur choix, leurs actes des accusés s'accommoderaient mal avec les idéaux que la société veut projeter d'elle-même, il faudrait oublier le nom des terroristes et donc aussi leur vécu. Mais par un abus d'oubli, on risquerait toutefois de refouler finalement le phénomène du terrorisme. Et pour le comprendre complètement, la société doit aussi avoir conscience que le terrorisme ne lui est pas extérieur, qu'il ne lui est pas étranger, mais qu'il en est en partie le produit.
Merci Thibaut Guichard. Et à lundi prochain pour le décryptage des audiences de ce procès qui vont se dérouler toute cette semaine. Merci à vous.
RFI. Exemple de votre travail d'historien sur RFI. Thibaut Guichard, vous nous apportez à la fois la profondeur d'une réflexion historique, mais aussi des références lorsque vous évoquez par exemple l'écrivain Primo Levi, auteur de « Si c'est un homme », ce qui donne une dimension plus large au procès au fond, à la fois dans l'histoire, mais j'allais dire aussi dans la géographie.
Oui, exactement. Et je dirais plutôt plus large aussi dans le temps. Ce qui nous a tous surpris, c'est de voir l'impact des événements dans la durée. Les attentats ont lieu il y a 6 ans, mais pour beaucoup de Français, ces attentats ont été finalement relégués dans le souvenir, dans une petite case, et n'ont plus occupé le centre de leur attention, de leur préoccupation.
Ce qui n'est pas le cas des témoins, évidemment.
Exactement. Et ce qui nous a surpris, c'est de voir aussi pour les témoins que les attentats étaient omniprésents dans leur quotidien. Ce qui donc... Importé pour moi de ce point de vue-là, c'était de voir aussi comment chaque victime s'était reconstruite, mais surtout avait en quelque sorte intégré qu'elle était témoin d'un événement aussi extrême, aussi traumatique que ces attentats.
Historique, hein, pour reprendre le sacro-saint
mot. Et qu'elle était finalement devenue un témoin historique, et comment elle formulait ce nouveau statut qui lui était là reconnu pleinement par la cour. Et de façon solennelle aussi. Par exemple, dans cette chronique où j'invoque le devoir de mémoire, c'est effectivement une notion qui est beaucoup intervenue en France dans le contexte du procès de Klaus Barbie. Donc c'était intéressant, je trouve, de mettre en perspective l'apparition de la notion, son réusage aujourd'hui dans le contexte d'un procès tout à fait différent. Et aussi pour montrer que chacune des victimes ont bien intégré ce rôle historique qui n'était pas ce simple rapport à sa propre mémoire, à son propre vécu, mémoire individuelle, mais qui s'adresserait à l'ensemble de la nation et qui atteindrait une dimension collective. Tout en montrant aussi qu'on est face à une polyphonie et qu'il faut rendre sensible, audible cette polyphonie. Et c'est ce que montre aussi le procès. Et c'est tout l'enjeu aussi pour
les voix,
pour ceux qui racontent le procès. Effectivement,
voix.
Il faudrait faire entendre toutes les voix. Alors comme l'a dit Laura, 15 témoins par jour, donc il est effectivement très difficile de rendre compte cette intégralité de toutes les voix qui s'expriment au procès.
Et pour aller dans le sens de Thibault, il y a quelque chose d'intéressant dans la construction de ce récit collectif, dans cette temporalité, c'est qu'on se rend compte que 6 ans après, le récit n'est pas du tout figé et qu'en fait, il se construit complètement à l'audience. Sur les faits, on a des familles qui lancent des appels à d'autres familles pour préciser où étaient leurs proches au moment où il a été touché. Une dame m'a mis la main sur l'épaule, si elle m'entend et qu'elle reconnaît la situation, qu'elle prenne contact avec moi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement... Il y a cette temporalité des 6 ans, mais 6 ans après, ce récit continue à se construire collectivement à la barre. Il se construit devant la cour pour la vérité judiciaire. Il se construit pour les parties civiles qui continuent à emboîter les pièces du puzzle. Et effectivement, il se construit pour nous, pour la société, qui sommes confrontés à ces récits.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Et dans la marche du monde, nous posons la question: comment raconter les attentats du 13 novembre, 4 mois après le début du procès? Et ce temps du procès, c'est aussi le moment, Christian Delange, où vous retrouvez la parole des témoins que vous avez filmés dans le cadre de vos travaux de recherche. Et d'ailleurs, vous les avez tous accompagnés au procès. Est-ce que vous avez retrouvé le témoignage que vous aviez recueilli?
Oui, alors d'abord, c'était émouvant, évidemment, de les voir arriver à la barre. On a évoqué tout à l'heure la scénographie du tribunal. Il faut savoir que les témoins n'ont pas une entrée particulière dans la salle du tribunal. Ils rentrent par là où tout le monde entre. Quand ils entrent, au fond, ils sont anonymes, puisqu'ils ne sont pas encore parvenus jusqu'à la barre. Quand ils en ressortent, tout le monde les a entendus et vus. Et donc parfois, c'était assez difficile de les voir, parfois marchant difficilement, ayant une canne ou très défait après être intervenu. Donc il y a quelque chose comme ça qui est assez visuellement, je dirais... difficile. Le procès, comme il a été dit ici par Thibault et par Laura, c'est en extension. C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui interviennent par lieu, Saint-Denis, les terrasses et ensuite le Bataclan, et parfois par type de les parties civiles, avant les spécialistes, les experts, etc. Nous, en fait, dans notre collecte, mais ce n'était pas un calcul de départ, ça s'est trouvé comme ça à l'arrivée, parce qu'on a avancé de manière très empirique, en fait. On a réussi, au fond, à avoir presque l'ensemble des parties qui sont intervenues le soir, c'est-à-dire aussi bien les personnes qui étaient présentes, qui ont perdu un proche ou qui ont été blessés ou qui ont survécu, que des représentants de toutes les catégories socioprofessionnelles, c'est-à-dire pompiers, policiers, urgentistes, etc. Donc on a pu rétablir sur un tout petit corpus de 20 personnes, on a pu rétablir au fond, je dirais, une trame de durée qui est celle de la nuit. Donc le procès, au fond, il donne du temps à chacun, au risque, il faut le dire, parfois que certains aient le sentiment que ceux qui les ont précédés, ceux et celles qui les ont précédés, ont déjà dit un certain nombre de choses et qu'ils risquent d'être dans la redite, ils l'ont dit eux-mêmes. Ou bien que, par exemple, Aurélie Sylvestre, mais c'est le cas aussi d'autres, prennent acte de ce qui s'est déjà dit, en disant, voilà, moi je suis déjà venu avant, j'ai entendu ce qui s'est dit. Et donc, donne à comprendre la communauté, au fond, qui se crée à l'intérieur du tribunal entre des gens qui ne se connaissaient pas, qui se retrouvent là, au fond, se découvrant des troubles communs ou évidemment une histoire commune à l'intérieur des lieux où ils ont vécu. Donc, et puis d'autre part, nous aussi, ce qui nous a intéressés, c'est que on avait pas mal travaillé, vous le savez, Valérie Nivelon, sur la comparaison, c'est le travail avec Elisabeth Clavery ou Hélène Dumas, entre comment un témoin s'adresse à une autre personne dans un cadre intime et comment évidemment le témoin s'adresse à la barre, à l'ensemble au fond de la société, voire plus que ça, à l'ensemble de la communauté humaine. Et donc bon, après, c'est vrai que dans le détail, Aurélie Sylvestre, elle avait écrit un livre. Ensuite, elle nous a donné son témoignage en 2019. Et puis ensuite, elle est intervenue au procès en 2021. Alors évidemment, à chaque fois, ça n'est jamais exactement la même chose. Et c'est ça qui est précieux. Non pas qu'il y ait des problèmes de mémoire, ce qui était le cas pour les survivants de la Shoah, parce qu'ils étaient à distance, mais juste parce que parfois, selon la situation de conversation ou de déposition un peu officielle, des choses tout à coup reviennent. Je dirais qu'il y a quelque chose qui se passe en direct, quoi. Le fait qu'on s'adresse à quelqu'un, c'est ce qu'avait expliqué Paul Ricoeur, ça se rapproche donc du travail du psychanalyste qui simplement aide à ce que la parole s'exprime. On laissait vraiment parler les gens sans jamais les interrompre, sans avoir souci factuel, sans vouloir les recadrer par rapport à une chronologie ou autre, puisque l'intérêt n'est pas dans un témoignage de dire une sorte de vérité factuelle, mais au contraire d'exprimer son propre vécu. Et c'était le cas aussi de Thibault Morgan.
Ces 20 témoignages filmés, hein, vous avez initié ce projet très peu de temps après les attentats, Christian Delarge. De quelle façon allez-vous aujourd'hui, justement, vous en saisir à votre tour, peut-être pour construire votre récit à travers un projet de film documentaire? Comment l'appréhendez-vous?
Alors oui, c'est vrai que c'est un projet qu'on a en tête. Alors il faut vraiment qu'on prenne le temps d'en parler avec toutes les personnes concernées, parce qu'on avait fait ce travail et ce travail a été accepté par les victimes. Je ne parle pas des témoins professionnels pour qui c'est un peu différent, mais dans la mesure où c'est un travail destiné à être archivé, donc au fond, ce qui leur importait à eux, c'est qu'une trace soit conservée et qu'ils ne soient pas exposés trop au public, parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans l'intimité des personnes, c'est toujours délicat d'exposer cette parole immédiatement à tous et à toutes. Donc on a déposé cette collecte dans les collections de la Bibliothèque de France le 6 septembre, deux jours avant l'ouverture du procès, au niveau recherche, avec un accès qui est donc contrôlé. Le projet que nous avons donc va tenir compte évidemment des réponses que chacun va nous faire par rapport à cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de les filmer venait de loin, puisque moi j'avais une expérience d'avoir déjà filmé des survivants de la Shoah. Et je crois qu'au bout du compte, on s'est aperçu qu'on a trois volets dans ce qu'on a fait. On a le volet mémoriel, au sens le plus commun du terme, c'est-à-dire... on parle quand même de la mémoire de ceux qui sont morts. Ensuite, on a le volant judiciaire qui est venu s'intercaler, donc qui n'est pas le nôtre, mais dans lequel nous sommes un peu nichés, si je puis dire, pour pouvoir voir comment ça se passe. Et puis, il y a le volet de la reconstruction qui est le plus puissant pour moi des trois. C'est-à-dire que, voilà, j'aime à dire que pour les survivants de la Shoah, moi, je n'avais pas vécu l'événement, et eux avaient au moins 85 à 90 ans, et étaient en fin de vie. Alors que là, c'est exactement l'inverse. Je suis plus âgé que l'énorme majorité des témoins que nous avons filmés. Ils sont dans un processus de reconstruction auquel, pour certains d'entre eux, ils ont bien voulu nous associer sous le registre de l'amitié ou de la complicité. Et ça, c'est extrêmement puissant.
Je vous propose, Christian Delage, d'écouter ce que cette cérémonie à la Bibliothèque nationale de France en septembre 2021, où vous avez déposé l'intégralité de ces témoignages filmés, a pu faire, a fait, a produit sur la metteuse en scène Pauline Susini, qui tout comme moi suit de longue date votre recherche sur le 13 novembre des vies plus jamais ordinaires. Elle nous le raconte avec Noémie Develay-Ressiguier, l'une des comédiennes de son projet théâtral « Nos reconstructions ».
C'était un moment très fort, très émouvant, déjà parce qu'en effet on était en intimité et que moi c'était la première fois que je rencontrais les témoins. Les rencontrer en vrai, j'avais aussi l'impression de connaître des choses d'eux très intimes et je ne m'attendais pas du tout non plus à ce que ce moment déclenche à ce point-là un endroit important de mon projet théâtral sur lequel je travaillais et je réfléchissais dessus depuis quelques mois. On avait déjà un peu commencé la recherche avec les comédiens au plateau, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à trouver la porte d'entrée du projet, en fait. Donc on faisait des improvisations, je les mettais... On essayait de travailler sur de la fiction et je sentais qu'il me manquait vraiment quelque chose. Et puis ce jour-là, donc à la BNF, la cérémonie, entre guillemets, a commencé par... un discours de la présidente de la BNF. Et en fait, elle a commencé à expliquer voilà, ce qu'est son métier pour elle, le sens de l'archive, de la BNF, de cet endroit qui, du coup, garde précieusement tous ces témoins de l'histoire, quelle que soit l'histoire qu'ils ont vécue. Et voilà, et elle a expliqué que pour elle... l'archive, là où c'est très fort, c'est que ça part d'un événement traumatique individuel et le fait d'en faire une archive permet une mise à distance qui permet aux personnes, aux gens, de s'en emparer et que cette histoire individuelle, à la base, peut devenir histoire collective et que on peut le penser presque dans le futur, j'aurais envie de dire. C'est-à-dire on peut s'en emparer pour lui donner un autre sens. Et là, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que je me sentais légitime à ce moment-là, du coup, de m'emparer de ce sujet, qui était une grande question que je me posais depuis le début. En plus, elle a vraiment remis, finalement, le point de départ du projet que j'avais devant moi, mais que je ne voyais pas, qui était en fait l'archive, puisque c'était nos matériaux de départ.
Bonjour, je m'appelle Noémie Develay-Ressiguier et je suis comédienne. Et je travaille avec Pauline Susini sur le projet qu'on a pour l'instant appelé « Nos reconstructions ».
Noémie, vous faites partie du projet de Pauline Susini. Est-ce que cette question de la légitimité vous est également tombée dessus ?
Oui, complètement. Et je dirais qu'elle n'est pas encore complètement réglée, même pas du tout. Moi, quand il y a eu les attentats et tout ça, j'ai pensé à ça plus tard aussi, c'est que j'ai rien voulu regarder comme information, j'ai pas voulu en parler. Et en plus, j'étais pas à Paris, donc les gens voulaient être ensemble, boire des verres et tout. Moi, tout ce que je voulais, c'était rentrer, dormir. Je sais pas comment dire, mais voilà, j'ai pas du tout voulu écouter toutes les informations et tout ça. Et puis, quand on a commencé à en parler avec Pauline, à aller au plateau, à commencer à faire des improvisations, c'est tellement proche, c'est tellement... On ne peut pas jouer ça. Enfin, on ne peut pas jouer quelque chose qui nous est pas arrivé déjà. Et puis, bon, ça, c'était au début. Et puis aussi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte, donc dans les archives qu'on regardait, les témoignages filmés par Christian Delage. En fait, un jour, j'en ai regardé un et j'ai réalisé que c'était quelqu'un que je connaissais. Enfin, c'est donc le témoignage d'Alice, Alice Barreau. Et puis là, j'avais vraiment l'impression de voir quelque chose que je ne devrais pas voir. Et je suis arrivée le lendemain et j'ai dit à Pauline, Alice Barreau, je la connais. Enfin, ça m'a fait vraiment un... Et puis ensuite, on s'est vu avec Alice quelques temps après. Puis elle était contente que je sois dedans. Et puis que... Voilà, mais moi, je dois dire que c'était même pas évident pour moi quand elle me demandait « Alors, qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis « Écoute, je sais pas. Je... » Voilà, c'était quand même pas réglé pour moi, ça, d'être en face d'elle et de lui dire « Voilà, on va jouer, tu vois, ce qui t'est arrivé. » Même si je sais qu'elle fait un spectacle aussi avec Raphaël, son copain qui fait la musique, mais c'est son histoire, c'est ses notes, c'est son carnet, c'est, enfin voilà, ça part de tout ça. Et puis c'est vrai que moi, ça m'a fait du bien aussi, ce que disait Pauline, de vraiment se dire que c'est comme une base de travail, ces archives, ça va être une base.
En même temps, ce sont des destins individuels, et en même temps, c'est la grande histoire qui concerne tout le monde au fond.
Mais là, c'est comme si c'était même géographiquement trop proche. Moi, j'habite juste à côté. C'est comme si ça me tétanisait un peu, peut-être, quoi. Tout est trop proche, trop lié. Alors, c'est peut-être de l'émotion. Et puis, effectivement, peut-être le travail, ça va être de... Grâce aussi à cette chose, quoi, des archives, mettre de la distance, quoi, en fait, peut-être. Ouais.
Alice Barreau, rescapée de la Terrasse du Petit Cambodge avec son frère Aristide, a décidé de raconter à sa façon son histoire de reconstruction. Alice a été filmée par Christian Delage, elle a témoigné au procès et je vous propose de l'écouter maintenant nous dire d'où elle vient et pourquoi elle a choisi de remonter sur la scène du cirque qu'elle aime tant. Un long récit.
Je viens d'une famille où on pratiquait beaucoup de sport et de disciplines artistiques. Je pratiquais beaucoup de danse, je danse depuis que j'ai 4 ans et je faisais aussi du théâtre. Plus tard au lycée, je me suis inscrite dans une classe clown. Il y avait quelque chose dans le cirque contemporain de totalement libre et moi j'avais soif de cette liberté-là. Je sais que par exemple, quand j'ai voulu faire du cirque, c'était pour cette chose où je pouvais tout mélanger, mais aussi parce que j'étais fascinée par le vol. J'ai vu des voltigeuses être balancées dans tous les sens, en l'air, par des porteurs. Et moi, comme je ne suis pas très grande et plutôt sportive depuis toujours, on m'envoyait toujours en l'air. Enfin, mes frères, mon père, mes cousins. Et j'adorais ça. J'avais cette ivresse d'être en l'air. Donc, quand j'ai vraiment décidé de faire du cirque, j'avais à la fois la réunion du rire, de la musique en live, de la danse, etc. et du vol. Et j'ai passé ma vie à essayer de voler. Et encore maintenant, j'adore de le dire comme ça. Je suis voltigeuse et mon métier... c'est d'apprendre, d'essayer de voler.
Vous êtes voltigeuse, est-ce que vous êtes aussi un clown?
Ben, c'est très difficile de s'auto-proclamer clown. Donc, je n'oserais pas. Par contre, je suis fascinée par le burlesque depuis toujours. Moi, ce qui me fascine, c'est comment, sans mots, les corps parlent à d'autres corps et dans des situations... on arrive à faire rire juste avec le corps. Donc évidemment, ça, c'est fascinant. En tant que voltigeuse, quand on apprend à amener son corps dans des extrêmes de performance, comment ensuite déjouer ça avec des moments où, très naïfs, où on arrive à faire rire.
Alice, suite aux attentats du 13 novembre, votre corps a changé. Comment vous avez abordé votre nouveau spectacle? Et est-ce que pour vous, c'était important de rester une voltigeuse qui sait faire rire?
Oui, ça, c'était un grand combat. Pour tout vous dire, cette idée de spectacle, je l'ai eue très tôt, dès le deuxième jour qui a suivi les attentats. Vraiment, c'est à l'hôpital... où il y a eu plusieurs déclics, mais un des premiers déclics, ça a été quand mon père, le 14 novembre, est rentré pour la première fois dans ma chambre d'hôpital. Et je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, mais il m'a fait rire. C'est-à-dire qu'il avait son fils qui était entre la vie et la mort. Il venait de retrouver sa fille après une nuit d'enfer à aller chercher partout. Et la première chose qu'il a fait, c'est de me faire une blague. Et on a rigolé tous les deux. Donc ça, c'est un pouvoir qu'a mon père, qu'a ma famille en général, cette force du rire. Mais je me suis dit, c'est pas croyable. Même dans ce moment-là, on arrive à rire. Ça a été un premier déclic. Et puis, les jours d'après, je lui ai demandé des carnets pour écrire ce que j'étais en train de vivre parce que je réalisais qu'à la fois dans le pire chaos de ce drame que j'étais en train de vivre personnellement, je trouvais de la lumière. C'est-à-dire que je trouvais, par exemple, dans ma chambre d'hôpital, j'avais des moments où je m'amusais avec la télécommande du lit. Et c'était débile, mais je riais toute seule. Pareil, quand j'avais donc mon bras qui ne pouvait pas être utilisé et que je devais me déplacer avec mon pied à perfusion, et ben en fait, je ne pouvais rien faire. J'étais coincée. Donc, quand je voulais prendre un verre d'eau pour retourner à mon lit, ce n'était pas possible. Et je me suis dit, oh, mais ça, c'est une super contrainte de clown. Et du coup, j'ai écrit ce genre de scène que je vivais parce que je l'ai trouvé drôle et parce que je me disais, c'est de la super matière pour un spectacle. Ces carnets, c'était aussi un défouloir parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sauve les gens qui m'entouraient et qui m'aimaient et qui étaient très proches parce que c'était horrible ce qu'ils étaient en train de vivre. Et aussi parce que je me rendais compte que je portais sur le dos mon histoire personnelle, qui était, voilà, j'ai pris une balle pendant les attentats, mais aussi la grande histoire avec un grand H de la France qui a été attaquée par un attentat. Et du coup, tout ce que je vivais et qui était très dur, je voulais pas le partager avec des gens. Voilà, dans ces carnets, j'écrivais aussi des scènes que je vivais qui étaient complètement surréalistes, qui auraient pu être dramatiques, mais comme je les écrivais dans mon carnet comme des pièces de théâtre. Donc j'écrivais, voilà, tel personnage, deux points. Par exemple, il y en a une dans le spectacle, que j'ai remis dans le spectacle, qui est l'histoire d'un psychiatre qui est rentré dans ma chambre d'hôpital 3 jours après les attentats et qui est venu pour m'expliquer ce que j'avais vécu. Il est rentré comme ça, oui, mademoiselle Barrault, je pense qu'il est nécessaire de mettre des mots sur ce que vous avez vécu. Et cet homme était d'une maladresse incroyable. Comme il ne trouvait pas les mots, il a commencé à m'expliquer que j'étais comme un lapin. Et que j'étais un lapin qui courait, que tout allait bien, quand tout à coup arrive un chasseur. Et cet homme m'a vraiment raconté, comme à une débile, que j'étais un lapin face à un chasseur. Et il m'a fait ce geste-là avec sa main, du fusil sur mon visage 3 jours après les attentats. Et moi, j'arrivais même pas à sortir de ma chambre tellement j'avais peur du monde extérieur. Donc qu'un homme que je ne connais pas rentre et ose me raconter que je suis un lapin aux aguets et faire ce geste avec sa main d'un fusil, c'était d'une violence tellement extrême que je lui ai demandé de sortir. Et ça, j'ai mis quelques jour à m'en remettre, mais j'ai écrit cette scène comme une pièce de théâtre et dans le spectacle je l'ai mis sous forme de scène burlesque et je joue ce personnage et c'est tellement jouissif pour moi maintenant d'interpréter cet homme complètement fou, faire ce geste-là et c'est une petite vengeance de me permettre de transmettre cette folie humaine par le rire.
Alice, ça veut dire que pour vous, raconter, ça peut être aussi en rire.
Oui. Et d'ailleurs, tout au long de mes écrits dans ces carnets qui a duré 5 ans, j'étais persuadée que j'en ferais un spectacle de clown. Et quand je me suis sentie prête et que je me suis dit, bon voilà, maintenant je vais réouvrir mes carnets pour voir si je peux me lancer dans ce projet, voir si j'ai assez de matière. Et j'ai demandé au Prato, ce théâtre à Lille qui m'a accompagnée depuis le début, une résidence, laboratoire, pour ouvrir mes carnets et les relire pour la première fois. Et c'était assez troublant. Et la première chose que je me suis dit en réouvrant les carnets, c'est « Ah merde, en fait, ça va pas que être drôle. » Parce que j'avais 23 ans au moment où je me suis fait tirer dessus. Donc cette fille qui devient un peu femme, dans ce contexte post-traumatique, dans un contexte où son corps change, où elle devient handicapée, et où ce pourquoi elle a travaillé pendant des années, elle ne peut plus le faire. Enfin, tout ça, j'étais persuadée que ça allait être super drôle. Et, mais je pense que c'est... Je pense réellement que c'est, comment dire, mon armure à moi, le rire. Alors, c'est pas que drôle, évidemment. Hein, j'ai aussi eu des grosses phases de dépression, des très très gros moments durs, mais c'était comme si quand j'arrivais au bout de ces noirceurs, j'avais toujours la Alice rieuse à l'intérieur de moi qui disait « allez viens, on y va quoi ». Me répéter tout le temps, tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. Mais si je ne sais plus qui je suis, il est où le bon endroit et le bon moment ?
Merci Alice Barrault et merci Raphaël de Pressigny pour le partage de votre création musicale sur Même, Mauvais endroit, mauvais moment, le spectacle d'Alice Barrault, voltigeuse et clown. À l'issue de cette émission, je me tourne à nouveau vers vous, Laura Martel. Comment vous allez raconter la suite ? Est-ce qu'on va pouvoir entendre la parole des accusés à partir de janvier ? Est-ce qu'elle va être audible après avoir entendu tous ces récits des victimes ?
Eh ben, en tout cas, après ce temps qui était particulièrement puissant et indispensable hein, pour entendre les parties civiles, on entre finalement dans ce qui est le cœur judiciaire du procès, puisqu'un procès est avant tout le procès des accusés. C'est là qu'ils vont être confrontés aux faits qui leur sont reprochés, aux éléments de preuve, et qu'effectivement, ils vont pouvoir s'expliquer. Cette parole est très attendue par la cour, par tous les témoins et par les parties civiles, d'autant que ces accusés se sont peu exprimés jusqu'à présent, qu'ils ont des profils totalement différents, hein, certains comparaissent slip, certains contestent les faits, d'autres comme Salah Abdeslam, le dernier rescapé des commandos, a dès le début du procès pris une posture forte en se revendiquant soldat de l'État islamique. Et c'est une grande question, est-ce qu'il va s'expliquer ? S'il s'explique, est-ce qu'il va rester dans cette posture assez politique de revendication, voire même pour certains de provocation ? Ou est-ce qu'il va aussi dire, et beaucoup de parties civiles attendent ça, des choses de lui-même, de ce qui l'a conduit à se retrouver aujourd'hui de ce box, de ce qui l'a conduit à participer à ces actes particulièrement atroces et éclairer encore des zones d'ombre, notamment est-ce qu'il avait ou pas le projet de se faire exploser, est-ce qu'il y a renoncé. En tout cas, les accusés ont le droit de garder le silence, mais on l'a vu, plusieurs tiennent à s'expliquer et cette parole-là constitue effectivement le cœur judiciaire du procès et est attendue par tous les acteurs.
Merci Laura Martel et merci à vous tous. Attentat du 13 novembre, comment raconter ? C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon, Sophie Janin et Dauphine Moreau. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, exprimez-vous, podcastez cette émission, c'est la vôtre. Religion.